Si nous sommes heureux pour cela, de ce que Dieu nous a déterminé, pas un enseignement, pas une interprétation, mais à croire à sa parole, révéler à sa parole et à porter sa parole promise, pas des opinions, mais sa parole originale telle qu'elle nous a été transmise dans les Saintes Écritures. Vous savez ce que nous croyons en cet endroit. Nous croyons que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Et nous croyons que tous les prophètes ont été envoyés ou alors pour apporter au peuple la parole de Dieu ou alors pour plus tard ramener le peuple à nouveau à la parole de Dieu. C'était le devoir des prophètes. Et dans ces derniers jours, je souris un peu. J'ai appelé un numéro de téléphone à l'intérieur de ce pays, dans ce pays. Et au bout du fil, il était dit, ici, est le répondeur automatique du téléphone, répondeur automatique. Et la voix dit, ceci est la voix de Dieu en Allemagne. Ou bien à peu près comme ça, le répondeur automatique dit, ici, ça c'est la voix de Dieu en Allemagne. J'étais bien sûr surpris, j'étais étonné, la voix de Dieu en Allemagne. Mais quand on pense un peu à cela, alors nous avons à nous poser la question, mais en fait, qui est celui qui parle avec nous? Qui est celui dont nous écoutons la parole? Mais c'est le Seigneur. Et en fait, la parole que nous apportons devrait être la parole de Dieu. Pas seulement nos pensées sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu elle-même. Ça devrait être elle-même la parole de Dieu, originale. Et ce n'était pas comme ça à s'attendre, n'est-ce pas, ce que le repreneur automatique disait. Si cela était vrai, cela nous serait réjouis. Mais enfin, c'est simplement un répondeur automatique. Mais regardez, imaginez-vous que nous viendrions nous réunir et puis nous entendrons la voix du Seigneur, vraiment de sa parole, et nous laisserait et nous permettrons au Seigneur de s'adresser à nous et nous mettrions cela en pratique. Ce serait bien, n'est-ce pas? Mais Dieu, en toute chose, veut achever son œuvre avec nous pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il fera en sorte que de tous les peuples, les langues et les nations, les siens, soient appelés à sortir. Et cela avec toute puissance. Je sais, cet après-midi, plusieurs doivent repartir. Il y en a qui ne pouvaient pas venir. Mais nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour chaque réunion de tout notre cœur. Cette fois-ci, je voulais en fait même pas être ici. J'ai pensé en moi-même, la distance est trop longue, tu ne pourras pas arriver. Mais là aussi, nous sommes reconnaissants pour les avions de tout notre cœur. Les uns, en quelques heures, déjà ont traversé, qui peuvent transporter quelqu'un en quelques heures à travers l'océan. Des choses qui n'existaient pas auparavant. Il n'y avait pas ces possibilités. Il y a 40 ans d'ici, où tout était en train de commencer. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment remercier Dieu aussi pour tous les moyens de technique que nous avons et qui existent. Là, le pilote peut dire, par exemple, nous volons 7 heures et 46 minutes. Et ce sera exactement un vol de 7 heures et 46 minutes comme il a annoncé. Exactement, ils peuvent tout calculer. Pourquoi est-ce que je le dis maintenant? Mes pensées vont là à ce que un jour, nous atteindrons ce monde entier par un satellite et alors nous apporterons le dernier message au peuple de Dieu dans le monde entier et que vraiment ce soit la voix de Dieu elle-même qu'on puisse dire de nous comme dans le dernier verset dans Un roi, je crois, ce que c'est. Un roi, chapitre 17. Le dernier verset nous touche toujours le cœur. Nous allons le dire. Alors la femme répondit à Élie, 1 Roi 17, verset 24. Oui, je sais, 24. 1 Roi 17. Oui, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est vérité dans ta bouche. Nous voulons rien d'autre que ça. Que la parole du Seigneur soit la pure vérité divine dans notre bouche. Rien ajouté, rien interprété, rien retranché, mais la pure et divine vérité de Dieu. Ici, nous allons résumer ce que nous avons, n'est-ce pas, déjà observé hier et aujourd'hui. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs et de nous, il a fait des hommes qui sont prêts à marcher dans ses voies, car c'est ainsi que c'est écrit. Dieu fera de vous des hommes qui marchent dans ses voies. Combien ont ce désir sincère de servir entièrement le Seigneur, de marcher entièrement dans ses voies, quoi qu'arrive. Et cela sera nécessaire pour atteindre le but. Il y a ce verset encore qui me vient, que je voudrais ajouter, que nous avons ici considéré brièvement un mercredi soir, de 1 Corinthiens chapitre 2, et puis aussi d'Ésaïe 64, et à la fin, nous viendrons encore à la parole que le frère Gaël Deutsch a lue. Je voulais dire, il disait Colossiens 4, il a lu Philippiens 4. Mais nous verrons, nous nous trouvons à la maison, dans la Bible, depuis plusieurs temps. Loué soit le nom du Seigneur pour cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est écrit, plutôt comme il est écrit, 1 Corinthiens 2, verset 9, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous avons un peu suivi cette parole, et je dois avouer que ici dans la traduction Luther, j'ai lu, c'est pas toujours que les traducteurs ont traduit et saisi exactement le sens. Eux aussi, ils ont eu leurs difficultés avec plusieurs écritures, versets bibliques, particulièrement ici parce que il est à lire plutôt comme il est écrit. Et à chaque fois que dans le Nouveau Testament, nous lisons tel qu'il est écrit, ou bien alors comme le dit les Écritures, alors nous devons, n'est-ce pas, quelque part, trouver un verset où, n'est-ce pas, cela est écrit, dont il est fait référence dans le Nouveau Testament, parce qu'il est écrit comme il est écrit dans sa lettre, avoir été écrit dans le Saint-Testament. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment. Je lis la même parole maintenant d'Ésaïe, chapitre 64. Ici, il est écrit au verset 3. Et que dès les temps anciens, on n'a pas entendu, aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi qui fait du bien à ceux qui espèrent en lui. Avez-vous tous bien lu ensemble? Aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu un Dieu autre que toi. Avez-vous remarqué de quoi il s'agit ici? Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est la révélation de Dieu lui-même. Il n'y a pas plus grand et plus une chose plus précieuse que la révélation de Dieu, la révélation de la personne, la manifestation de Dieu lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune oreille n'a entendu, aucun œil n'a vu qu'il y a un Dieu autre que toi, en dehors de toi, qui fait du bien. Et cela aussi a inondé nos cœurs. Il est Dieu et personne d'autre. Il se révèle comme et à qui il veut. Verset 4, il est écrit ensuite. Tu viens à la rencontre de celui qui prend plaisir à pratiquer la justice de ceux qui se souviennent de toi dans tes voies. Amen. De ceux qui se souviennent de toi dans tes voies. Pas qu'ils se souviennent, qui pensent à eux dans leurs voies, mais qui se souviennent de toi dans tes voies. Nous pouvons aussi nous compter à ce nombre. Nous avons compris ce que veut dire cette parole. Mes voies ne sont pas vos voies. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais, car, autant que le ciel est élevé de la terre, c'est ainsi que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. Donc, si nous pensons à notre Dieu, nous nous souvenons de lui et que nous marchons dans ses voies, alors il se révélera à nous. Maintenant, je dois à cela lire à Colossiens, chapitre 2, verset 1. À cela, Colossiens, chapitre 2, verset 1. Colossiens, chapitre 2, verset, du verset 1 jusqu'au verset 3. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat j'ai à soutenir pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux pour lesquels je suis resté personnellement inconnu jusqu'à présent. Que leur cœur soit par là encouragé après s'être fermement unis dans l'amour et dans toute la richesse de la pleine compréhension afin de connaître le mystère de Dieu. Le verset 3, ce mystère, c'est Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout est en lui. Tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous devons connaître, tout ce dont nous avons besoin. Et frère Gaël a lu Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas réjouissez-vous toujours dans le monde. Là, il y a toutes sortes de tromperies. Mais ici, dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, nous recevons la joie où que nous soyons, car il est celui qui parle avec nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore une fois, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Cette parole aussi semble s'appliquer à nous et être à notre mesure. Nous, n'est-ce pas, qui vivons très proche du retour du Seigneur. Après, il est écrit au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ça, ce serait bien d'avoir une vie sans inquiétude. Qui se souhaite une telle vie? Sans inquiétude, sans souci. Il y en a qui s'inquiètent aussi des inquiétudes et sont soucieux pour des choses dont ils ne devraient même pas s'inquiéter. Mais cela est sûrement selon notre nature. Ne vous inquiétez de rien, aussi de comment les choses doivent continuer, non plus de comment est-ce que Dieu achèvera son œuvre, et non plus qui est-ce que Dieu doit utiliser puissamment ou bien qui Dieu va utiliser puissamment. Non, ne vous inquiétez de rien. Faites-lui connaître vos besoins et déchargez-vous sous lui de vos soucis. Il fera toutes choses bien. Ne vous inquiétez de rien. Cela ne veut pas dire devenez indifférent. Pas, absolument pas. Mais bien au contraire, soyez remplis de l'esprit. Brûlez dans l'esprit. Et soyez prêts à servir le Seigneur, mais n'ayez pas de soucis. Ayez de la confiance, ayez de la foi, ayez de l'assurance et la certitude. Car l'œuvre dans laquelle nous nous tenons est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, j'arrêterai ici si j'étais en train de faire et de soutenir et de représenter ma propre chose, ma propre œuvre. Non, ça aurait été la dernière fois que je me tiens ici devant. Si à 100% je ne savais pas, je ne saurais pas qu'en toute chose, ce ne sont pas nous-mêmes, mais c'est la chose de Dieu que nous portons et que nous soutenons et que nous-mêmes, nous sommes une partie simplement du programme de Dieu. Nous sommes devenus une partie du programme de Dieu. Personne. Et que personne ne puisse m'estimer aussi insensé que je me sacrifierais toute ma vie pour une chose qui vient de l'homme, qui à la fin devrait échouer. Non, je serais le plus grand insensé qui vit sur terre. Si tout mon temps, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le sacrifie pour le Seigneur, pour ensuite, pour quelque chose, je le sacrifie pour quelque chose que les hommes voulaient? Non. La chose dans laquelle nous nous tenons est la chose de Dieu. La cause pour laquelle nous nous tenons est la cause de Dieu. L'Église est l'Église du Dieu vivant. Elle est l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est racheté à un prix précieux par son sang qui s'est acquis. Et nous n'avons rien à faire à quelque chose d'autre qu'avec l'appel à sortir et la préparation de l'Église de Jésus-Christ. Et aussi concernant cela, on m'a aussi posé la question, pourquoi est-ce que nous ne fondons pas d'église locale? Malheur à moi si je le ferais. Avec cela, je transgresserais un commandement direct que le Seigneur m'a donné personnellement. Alors qu'il disait, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Et ensuite, il a dit, ne fonde pas d'église locale et n'édite pas de chants de cantiques, de livres de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Maintenant, nous n'avons pas affaire au fondement d'églises locales qui, de nouveau, pour mettre à nouveau au jour leur propre espèce, mais plutôt nous occuper à l'appel à sortir au rassemblement de tout le corps de Jésus-Christ, de toute l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et ne rien avoir avec des opinions faites maison, mais de s'occuper avec de travailler avec le ainsi dit le Seigneur, avec la parole de Dieu révélée, avec les promesses pour ce temps. S'occuper à les propager, à les proclamer. Et nous pouvons nous réjouir de cela. J'aime bien me rappeler du 3 décembre 1962, alors que le frère Branham parlait de la nourriture et disait, c'est la parole révélée et promise pour ce temps. La parole promise et révélée de Dieu pour ce temps que tu dois stocker, emmagasiner pour ensuite distribuer comme nourriture spirituelle. En vérité, le temps est arrivé dans lequel l'homme ne doit pas seulement vivre de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Pas seulement de quelques paroles qu'ils sortent de leur contexte et parce qu'elles s'ajoutent à leur concept, mais il s'agit de toute la parole, vivre de toute la parole, de toute la restauration, de toute la parole de Dieu et de la restitution et de la restauration et de vivre la restauration dans son entièreté. Pour cela, c'était nécessaire que toute la parole soit révélée. Nous la recevions révélée, mais maintenant nous devons maintenant la vivre, l'observer, parce que la parole n'a pas été révélée comme vérité en partie, comme cela était le cas dans les années passées. Mais toutes ces vérités en partie ont été résumées comme une vérité entière. Toutes les connaissances bibliques et les révélations qui existaient en partie sont devenues une chose entière, ont été résumées comme une chose entière, totale, comme jamais auparavant. Et pour cela aussi, nous en sommes reconnaissants à notre Dieu de tout notre cœur, du fond du cœur. Maintenant, je dois encore rapidement lire 2-3 versets bibliques et ensuite continuer à lire de la prédication de Frère Branham encore aussi très brièvement quelques passages. Nous parlions, n'est-ce pas, du sacerdoce royal, d'hommes qui ne appartiennent plus, de personnes qui ne appartiennent plus, mais qui appartiennent à celui qui les a rachetés. Et nous savons que notre Seigneur lui-même est roi, sacrificateur et prophète. Dans Apocalypse, le premier chapitre, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. Moi, Jean, j'envoie mes salutations aux sept églises dans la province d'Asie. Aux sept églises de la province, pardon, d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, qui était et qui vient, et par les sept esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur des rois de la terre. Lui qui nous aime et qui et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Nous pourrions tous à cela, sans hésiter et sans réfléchir, dire un Amen à haute voix. À lui est le pouvoir. Après sa résurrection, le Seigneur a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et il a dit aux siens, il a donné aux siens cette autorité divine. Et il disait dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, de Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Nous avons tout pouvoir sur Satan. Nous avons tout pouvoir sur nous parce qu'il a été vaincu sur la croix à Golgotha et le Seigneur nous a donné le pouvoir sur lui, sur sa puissance. Si nous devrions aller contre lui, alors chacun de nous, du premier jusqu'au dernier, aurait aucune chance. Il n'y aurait personne qui pourrait subsister devant lui. Personne. Mais cela s'est passé avec notre Seigneur, comme autrefois, avec David et Goliath. Les deux côtés se sont accordés. Celui qui sera vainqueur sur l'autre, la partie de celui qui a été vaincu, servira l'autre qui a été vainqueur. Et c'est ainsi que Jésus-Christ a vaincu Satan. Et maintenant, Satan et toute son armée doit nous être soumis. C'est pas possible autrement. Nous devons nous élever dans cette foi. Nous devons savoir que c'est une réalité divine et arrêter de parler du pouvoir de Satan et de parler de lui et plutôt commencer à parler de la puissance de Dieu qui doit être manifestée en nous et à travers nous. Si nous parlons de du pouvoir de Satan, alors le vieux diable se réjouit, toujours de nouveau, il se réjouit. Mais quand nous parlons de la puissance de Dieu qui a été manifestée, de la victoire de Dieu, alors il tremble. Il sait très bien exactement que lui, le serpent ancien, la tête a été écrasée. Il le sait. Il sait que notre Seigneur vint dans cette chair, dans ce corps, pour expier les fautes, pardonner les péchés et nous racheter et nous délivrer et affranchir. Et cela est accompli. Ça a eu lieu. Il y a tout un livre écrit par Emmanuel Meyer appelé « Des liens de Satan ». Je l'avais lu il y a peut-être il y a 30 ans d'ici que je l'avais lu. Des liens de Satan. Nous avons été délivrés des liens de Satan. Et ravis dans le royaume de Dieu. Et nous devons nous familiariser avec les pensées divines. C'est en elles que nous devons penser et parler et rendre ainsi gloire à Dieu. Ici, il est écrit au verset 6, Apocalypse 1, « Et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Et il rentrera dans son règne. » Ça, je vous lis pour cela d'Apocalypse chapitre 11. Verset 15, Apocalypse 11, à partir du verset 15, là il est écrit, « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint. » Et il régnera comme roi dans toute éternité. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as pris possession de ton grand pouvoir et de ce que tu as commencé à régner. » Est-ce que vous avez remarqué ici quelque chose? Qui a bien entendu? Qui a bien écouté? C'est toujours très bien quand on écoute attentivement. Dans un verset, il est écrit, de celui qui est et qui était et qui vient. Ici, il est plus nécessaire de dire qui vient, car ici, il est déjà dit que au moment où cette écriture va s'accomplir, ici, il est montré en fait qu'il est déjà venu et qu'il a commencé et qu'il commencera à régner. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il relit le verset 17, qui est et qui était, de ce que tu as pris possession de ton grand pouvoir et de ce que tu as commencé à régner. Les nations se sont certes mises en colère, mais ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts, et de la récompense pour tes serviteurs, les prophètes, et pour les saints, et pour tous ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands. Est-ce que nous craignons en fait tous le nom du Seigneur? Avons-nous de la crainte devant lui et sa parole? Alors le Seigneur nous rencontrera. Car il est écrit, tous ceux qui craignent et tremblent devant sa parole. Encore d'Apocalypse 15 et ensuite le chapitre 19. Peut-être aussi le chapitre 20. Apocalypse 15. Verset 3. Ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et véritable sont tes voies, ô roi des nations. » Il est roi. Oui, le roi des rois. Maintenant, nous lisons rapidement d'Apocalypse chapitre 20. Verset 4 est très long. C'est pour cette raison de lire seulement la deuxième et la dernière partie du verset 4. Apocalypse chapitre 20. La dernière partie du verset 4 et ensuite jusqu'au verset 6. Et ils revinrent à la vie et régnèrent comme rois avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans eussent été accomplis. C'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Ici, cela est encore souligné. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Je peux ici venir, je ne peux pas ici entrer dans le sujet de la divinité parce que ça ne s'ajuste pas ici à ce que nous observons. Mais remarquez comment est-ce que c'est écrit ici. Ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et ils régneront avec lui, pas avec eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Et l'entendement humain dirait, et ils régneront avec eux. Mais non, ici, avec lui, lui. Ici, la sagesse humaine n'est pas demandée. Ici, c'est la sagesse de Dieu qui est demandée. Et qui a été révélée par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, le verset 6, la fin, nous ne pouvons pas assez insister. Quel privilège c'est de ce que Dieu, par révélation, nous a accordé sa parole. Et Paul, n'est-ce pas, a écrit aux Corinthiens et aux Colossiens aussi, et toujours de nouveau, a souligné que les croyants reçoivent la parole, doivent recevoir la parole par révélation. Il priait même que Dieu nous accorde des... Donc, illumine les yeux de nos cœurs et que le mystère tel qu'il a été révélé à ses serviteurs, apôtres et prophètes, qu'il nous soit révélé et que nous puissions le comprendre. Je voulais maintenant, de la prédication de hier, lire à la page 28. Ici, frère Branham donne l'exemple connu de Shakespeare et Beethoven et dit que si ceux-là ou bien alors leur esprit habitait en nous, nous serions capables de faire ce qu'ils ont fait. Ensuite, il expose et il dit, mais celui qui est en vous, c'est Christ. Et si Christ est en vous, si Christ habite en vous, vous ferez les œuvres de Christ. En fait, quelque chose de très logique. S'il agit par nous, alors il fera exactement la même chose qu'il a faite autrefois. Car il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Ici, il est écrit ici. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, 12. Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Si vous êtes en Christ et que Christ habite en vous, Christ est la parole. Est-ce vrai? Ça, nous le croyons tous. Christ est la parole, mais pas la lettre, mais l'esprit qui vivifie la lettre. La lettre, tous l'ont à la maison, des millions, des milliards l'ont à la maison. Mais où est Christ? Christ est là où il peut se manifester en tant que le vivant et rendre témoignage de sa présence. Il est là où il est souhaité la bienvenue, là où il est reçu, là où il est accepté, il est là où on croit en lui. Il est là où on lui fait confiance. Il est là où on lui obéit. Il a dit, je me révélerai à vous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je continue à lire. Si sa vie habite en vous, mais si vous vous vivez vous-même, alors vous ferez vos œuvres, vous ferez vos propres œuvres. Mais si c'est Christ qui habite en vous et que vous vivez la vie de Christ, alors celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si le doute et la confusion règnent en vous au sujet de la promesse de Dieu, si le doute et la confusion règnent en vous au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n'est pas là. Et vous faites qu'avancer dans quelque chose. Mais si la vie de Christ est en vous, il reconnaîtra sa parole et accomplira sa promesse. Il le fera. Donc, qu'est-ce qui est en nous? Si la vraie parole pure de Dieu révélée est en nous, alors il n'y a pas de confusion et de doute, mais il y a la clarté et la vérité en nous. Il n'y a pas de désordre, on n'est pas divisé, mais rassemblé parce que Dieu a voulu le rassemblement et l'union et il a accompli ainsi. Alors nous avons la clarté telle que cela est écrit ici sur sa parole et sur ses promesses. Et ça aussi nous l'avons dit en insistant. Tout est contenu là, dedans, que nous puissions avoir trouvé les promesses dans la parole de Dieu pour cette heure. Oui, que Dieu nous les ait montrées et qu'il nous ait accordé l'accès à ces promesses. Et dans ces promesses, n'est-ce pas, notre foi est ancrée. Je lis. Si vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu, que vous avez reçu ce que vous demandez et cela vous sera accordé ensuite. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi, et que vous ne doutez pas dans vos cœurs, mais croyez que ce que vous dites arrive, alors vous pouvez avoir ce que vous dites. C'est simplement des paroles puissantes qui fortifient dans la foi, et ce qui est bien, c'est qu'elles sont vraies. Tout! Même si jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas encore vu dans toute sa mesure, tout ce qui est écrit est vrai. Et tout ce qui a été promis s'accomplira. Il y a des hommes qui ôtent ce qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Ça, nous ne le faisons pas, non. De la parole, non. Nous savons que Dieu, pour toute chose, a un temps. Nous ne devons pas aller trop vite, mais non plus être en arrière, derrière. Nous voulons conserver le même pas avec lui et aller de l'avant. Et ici, il dit encore, le même Christ habite en vous. Il vit en nous. C'est peut-être la raison que nous faisons ces œuvres. Car Christ est la parole. Une promesse de la parole vous apporte la guérison. Croyez-vous cela? Certainement. En fait, c'est ainsi avec tout ce que Dieu a promis. Tel que souvent nous avons eu à le dire, nous l'avons dit, Jean le Baptiste était un prophète promis. Je me suis écrit les deux versets bibliques, je veux dire, l'un est écrit dans Ésaïe 40, verset 3. Là, il est écrit, « Écoutez, une voix crie dans le désert. » Et j'ai ouvert dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, et écoutez la réponse de Jean ici. au verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dans l'Ancien Testament, la prophétie, la promesse, une voix crie dans le désert. Préparez ou bien planifiez à planifier le chemin du Seigneur, une route pour notre Dieu. Et ici, les gens viennent et demandent à Jean, mais qui es-tu? Es-tu Christ? Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Alors nous lisons si merveilleux ici. Il répondit, je suis la voix. Amen. Cela est écrit qu'une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin pour le Seigneur, et on demande à Jean, qui es-tu? Es-tu ceci et cela? Ou bien autre chose? Et il dit, je ne le suis pas. Je suis la voix. Je suis la voix. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Non, une telle chose existe. Dans la Sainte Écriture, il y a les preuves divines. Ici, les promesses et ici, leur accomplissement. Et nous pouvons, par cela, voir la véracité de Dieu. Jean, un prophète promis, il n'avait pas besoin de craindre pour confesser qu'en lui, les Écritures se sont accomplies. Hier soir, je l'ai mentionné déjà, que beaucoup, oui, des plusieurs milliers d'évangélistes et des prédicateurs estiment beaucoup le ministère de Frère Branham. Mais au moment où ils ont entendu, estimaient son ministère, au moment où ils ont entendu que par son ministère, les Saintes Écritures se sont accomplies, voici, je vous envoie le prophète Élie. Vous connaissez toute cette écriture de Malachie. Subitement, on ne reconnaît plus ces gens. On ne les reconnaît plus. Ceux qui auparavant ont chanté des louanges, n'est-ce pas, avec des hautes voix et tons, on ne peut plus les reconnaître. Les mêmes gens. Car au moment où ils devraient avouer que ici des prophéties bibliques se sont accomplies de nouveau, alors ça veut dire qu'ils devraient se laisser corriger, se laisser diriger, se laisser reprendre. Alors, ils doivent, n'est-ce pas, marcher sur ce chemin aplani, et ça, ils ne le veulent pas. Il y a beaucoup de choses en jeu. L'argent, la popularité, tout ce qui va à cela, n'est-ce pas? Alors que, il n'y a pas longtemps, j'avais lu cela ici, comme ça, j'ai cela a exalté dans mon cœur. Jean, on lui demande, qui es-tu? Es-tu Christ? Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Il dit, non, je ne le suis pas. Encore une fois, non, et encore une fois, non. Mais qui es-tu alors? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui es-tu? Et alors je pensais, ici il est écrit, il répondit. Je pensais d'abord qu'il est écrit dans Ésaïe, n'est-ce pas? Voici une voix crie dans le désert. Et cet homme de Dieu dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, ça, c'est un morceau fort. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait la parole de l'heure. Il avait le message de Dieu adressé au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de plus, même non plus de moins dans ce temps. Il s'agit d'avoir entendu et compris le message divin clair, fondé sur toutes les promesses de la parole dans l'ensemble de la prophétie biblique et de s'y tenir et d'y demeurer, non pas en interprétant et en changeant de direction, mais en restant dans cette direction divine unique. Il y a des hommes qui sont nés de la semence de la parole et ils ont simplement la relation à la parole. C'est un peuple étrange, un peuple de rois et de sacrificateurs. Une descendance divine. Nous devons, n'est-ce pas, proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres et qui nous a transportés dans sa merveilleuse lumière. Christ en nous, pas seulement comme enseignement, comme thèse, comme titre, mais comme une réalité divine, pas comme titre d'un sujet. Ça, je me le souhaite, ça, je nous le souhaite à tous. Tout le corps du Seigneur, que Christ puisse vivre sa vie ici par nous, tel qu'il a pris notre place. Nous devons aussi, à sa place, ici, exister sur terre, comme Paul l'écrit à la place de Christ, comme ambassadeur à la place de Christ. Nous vous avertissons de vous laisser réconcilier avec Dieu. Jean était la voix de celui qui a crié dans les déserts. La voix de qui sommes-nous ici aujourd'hui? Le répondant automatique n'avait pas tort. La voix de Dieu en Allemagne. La voix de Dieu sur terre. La voix de Dieu dans le monde entier. Qu'est-ce que Jésus disait? Mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce que c'est que sa voix? Sa voix est sa parole. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, revenus à sa parole. Nous ne regardons pas à droite ni à gauche, mais nous suivons notre chemin droit avec le Seigneur, devant nous. Ici, frère Branham continue et dit, celui qui était en David était plus fort que l'ours qu'avait pris sa brebis. Celui qui était en David est plus fort que le lion qui avait pris un jour ses brebis. Celui qui était en David était plus puissant que l'ennemi Goliath, ce grand Philistin qui se tenait en face de lui, 12 à 14 pieds de haut, avec des doigts de 14 pouces de long, avec une lance comme un arbre de tisserand et une armure d'écaille pesant 5000 cycles de minerai. Si on nous aurait mis une telle armure, nous serions ensevelis à l'intérieur, encore moins aller à la bataille. Mais Dieu était avec David. Il n'avait même pas besoin d'aller loin. Dieu était avec lui. Dieu était avec Moïse. Moïse pouvait dire, Dieu suscitera de parmi vos frères un prophète comme moi, et toute âme qui n'obéira pas mourra. Qu'est-ce que c'était? Nous savons que dans le Nouveau Testament, Jésus devait aussi être prophète. Ensuite, il est écrit ici, ça continue. David disait, tu me rencontres comme un Philistin au nom des Philistins. Tu me maudis au nom du Dieu des Philistins. Tu t'es vanté de ce que tu feras. Tu me fais face avec une armure et une lance. Mais je te rencontre au nom de Dieu le Seigneur. Aujourd'hui, je vais te faire tomber la tête des épaules. Il a fait parce que celui qui était en David, parce que celui qui avait rempli David d'un tel courage, était plus fort. Nous avons besoin de courage et de certitude. Et devant Dieu, sans limite, nous pouvons avoir de la confiance. Je l'ai toujours dit, Dieu est digne de confiance. Il ne ment pas, il ne trompe pas. Il est véritable et vrai. Ici, frère Branham dit, en se référant aux malades, celui qui est en vous est plus grand que le fauteuil roulant, la chaise roulante. Celui qui est en vous est plus grand que le brancard, est plus grand que le cancer, est plus grand que la souffrance. Celui qui est en vous est plus grand que tout. Tout ce que le diable pourrait vous infliger, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, il est plus fort. Gloire à notre Dieu. La crainte doit s'éloigner. Le doute, l'incrédulité aussi. Là où le peuple de Dieu, au nom du Seigneur, avance. Et si nous écoutons de telles choses de la parole de Dieu, alors la foi et le courage surviennent dans notre cœur. Alors même le plus faible parmi nous peut être fort et faire confiance au Seigneur. en étant conscient que ce n'est pas nous qui le sommes, mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a pris soin déjà pour tout à l'avance. Encore rapidement, plusieurs phrases. Celui qui était en David était plus fort que Goliath. Il a tout vaincu. Alors qu'il était ici sur cette terre, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la tombe. Maintenant, il vit comme vainqueur en nous. Amen. Maintenant, il vit comme vainqueur en nous. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Nous pouvons dire Amen. Oui, nous pouvons dire, Seigneur, nous voici. Que tu puisses vivre toi-même par nous comme le vainqueur de Golgotha. Toi-même. Combien de fois nous l'avons souligné? Là où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, il faut que les mêmes choses se répètent qui sont exposées dans les évangiles qui ont eu lieu dans le ministère de Jésus lui-même. C'est pour cette raison que nous avons les évangiles, pour voir ce qui s'est passé autrefois. Marc, Matthieu, Jean, Luc, pour voir ce qui se passait quand Jésus évangélisait. Les liés ont été déliés, les malades ont été guéris, les pécheurs ont été sauvés, les morts ont ressuscité. Alors si aujourd'hui vous me demandez, est-ce que tu crois vraiment de tout ton cœur à la pleine restauration de tout ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes? Alors moi je dois dire oui et amen à cela. Sans crainte et sans hésiter. Pas en moi. Si c'est moi qui devrais le faire, alors ça vous pouvez me croire. Alors je l'aurais fait depuis longtemps. Je n'aurais pas attendu si longtemps à moi. Mais c'est Dieu qui s'est conservé de le faire. Il est capable de le faire. Lui seul. Et dans quel état sommes-nous? Croyons-nous, comme c'est écrit, que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, telles que Dieu, par la bouche de tous les prophètes des temps anciens, l'a laissé annoncer à l'avance, aussi certain que la sainte bouche du Seigneur l'a prononcé et que la parole de Dieu ne peut pas être annulée, aussi certain aussi nous nous attendons à cela. Et nous le verrons arriver un jour. Les gens vont nous regarder et tel qu'ils avaient entendu parler de la restauration de toutes choses, nous pourrons leur dire, nous sommes l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée. Nous sommes, un jour, il faut que la parole à nous devienne chère, soit devenue une réalité divine, ici, par nous, telle qu'elle est écrite. Jean pouvait dire autrefois, je suis la voix. Il était. C'était pas seulement une prétention, c'était une réalité. Christ était le rédempteur promis. Les promesses pour ces jours vont aussi s'accomplir, tous. Pensez-vous que ses frères Branham, que ça a été facile pour lui, ici, de parfois, quand on lui a demandé, alors qu'il demandait aux gens, crois-tu que je suis le prophète de Dieu? C'était pas facile pour lui de le dire. Mais malgré tout, il a dû le faire. Pour que les gens puissent savoir qu'ils avaient affaire, en fait, à Dieu et avec un homme, un ministère établi par Dieu. Ils avaient affaire avec l'accomplissement des prophéties bibliques, avec l'accomplissement des promesses que le Seigneur avait données pour nos jours. Ici, il est écrit, en fait, encore beaucoup, beaucoup de choses. Dans cette brochure, Frère Branham dit ici, ce Christ, celui, comme dit Jean, celui qui est en vous, est plus fort que lui dans le monde. C'est le Christ. Il est plus fort que le monde entier. C'est le Christ. Il est plus fort que le monde entier parce qu'il a conquis le monde, vaincu le monde. Et il est plus grand que toutes ces choses qu'ils ont dans le monde parce qu'il les a conquis, vaincus pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés et s'est donné pour nous afin qu'il revienne, fasse ses œuvres à travers nous et puisse faire ses œuvres à travers nous et prouver ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous pourrions encore continuer à lire. Nous croyons que le Seigneur n'a pas seulement consolé son peuple, mais il enseigne. Il nous a enseigné et il nous a accueillis et il s'est révélé à nous par sa grâce. Nous croyons les promesses qu'il nous a données pour ce temps dans sa parole. Et nous les verrons arriver, s'accomplir. Je ne connais pas Dieu autrement que le fidèle et le véritable Dieu. Alors qu'il promettait à Abraham, après 400 ans, « Je ferai sortir ta descendance de la servitude d'un pays avec bras élevés puissants. » Est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait. Toutes les promesses de Dieu sont « Oui » et « Amen ». Marie croyait alors que la promesse lui avait été apportée. Et nous aussi, nous croyons parce que la promesse, nous croyons aussi, parce que les promesses pour ce temps nous ont été apportées. La promesse pour ce temps, même si nous ne ressentons encore rien, nous savons, nous l'avons aussi lu hier. Nous pouvons encore aujourd'hui le lire. Hébreux 11, verset 1. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Mais la foi est la réelle présence de la substance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une ferme conviction démontrée des faits réels qu'on ne voit pas encore. Pourquoi est-ce que nous sommes si confiants et convaincus? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ferme. Elle est ferme pour toute éternité. Elle est certaine. Ce que Dieu a prononcé de sa bouche, cela reste valable. La fermeté n'est pas en nous. Elle a été mise en nous par Dieu. De Dieu, ce n'est pas nous qui l'avons apportée, produite. Non, nous persévérons et restons patients envers les promesses et nous sommes convaincus que Dieu, jusqu'à la dernière promesse, les accompliront. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange et avec le cri de réveil, le cri de commandement, quoi que ces trois choses contiennent, alors, quoi que ce soit que ces trois choses contiennent, quand il reviendra pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire, tout cela seront des prophéties bibliques accomplies et des réalités. Nous aussi, comme Église, comme partie de l'Église, nous ne sommes pas seuls ici, mais avec nous, tout le corps du Christ. Nous allons vers cela et nous persévérons à ce que la parole qui nous a été accordée comme révélation, comme promesse et qui a été révélée, nous persévérons jusqu'à que nous la verrons complètement accomplie. Qui le croit? Ça, je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme. Dieu ne peut pas faire autre chose que de tenir sa parole. Il faudrait que le ciel s'écroule pour que sa parole trompe. Non, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Croyons-nous que Christ habite dans notre cœur, a établi sa demeure dans notre cœur? Alors le ressuscité est en nous, comme nous l'avons lu dans la prédication de Frère Branham. Christ a vaincu. Et comme vainqueur, il a établi sa demeure en vous, en nous. C'est pas le Jésus qui portait la croix et sur le chemin de Golgotha, et mourant et souffrant. C'est pas lui qui habite en nous. Mais le ressuscité, celui qui nous a réconciliés avec Dieu, lui qui a dit « Je vis et vous devez aussi vivre. » Il a comme vainqueur dans notre cœur fais sa demeure pour nous comme rachetés, nous faire devenir des vainqueurs. Des vainqueurs. Tout ce qu'il était et ce qu'il est, il veut le faire de nous aussi. Il est roi. Il est sacrificateur. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lui le premier-né, nous les premiers-nés. Lui le fils de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu. Il veut, dans son Église, achever son œuvre. Et nous croyons que, par la grâce de Dieu, nous prendrons part, nous avons part à cela. C'est une telle espérance vivante en nous. Et c'est une espérance divine qui ne n'amène pas, conduit pas à la déception, mais à l'accomplissement. C'est ainsi que c'était avec tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël, n'est-ce pas? Ils l'ont vu. Cela s'est accompli. Oui, quand le temps est arrivé pour cela. C'est la même chose aussi avec nous maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous avoir fortifiés dans la foi par sa parole, nous avoir vivifiés de nouveau par son esprit, nous avoir accordé une nouvelle assurance pour que dans la foi, nous puissions aller de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vie aussi en ce qui concerne cette promesse. Amen.